moi, ma façon de voir, c'est ou toucher ou écouter, qu'est-ce qu'on me raconte, questionner. C'est mon chemin pour arriver à la perception visuelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est sûr que la perception visuelle, c'est une représentation mentale. Hein? Je pense qu'on oublie souvent qu'une fois qu'on a vu une œuvre, quand vous y pensez, vous pouvez vous la représenter en partie ou en tout, ou en des éléments. Alors, au fond, la personne qui voit, elle fait juste la deuxième étape. Elle se la représente. Vous voyez tout d'un coup, hein? Et après, ben, peut-être vous pouvez observer des détails. Mais vos liens, vous n'avez pas besoin de les créer à l'extérieur de vous. Ils sont devant vous. Tandis que nous, et moi, par exemple, c'est le contraire. Il faut que qu'on me donne tous les morceaux pour que là, je puisse commencer à bâtir. C'est comme un casse-tête, hein? Et j'ai l'impression que c'est souvent ça qu'on oublie. Je me dis, mais quand on rêve, tout le monde rêve, il voit des images, c'est pas des vraies images, elles sont pas là. Mm-hmm. C'est la création de l'imagination, je ne sais pas quoi, le phénomène, mais c'est pas des images qu'on peut toucher.
Pour parler de peinture, on peut interviewer un conservateur de musée, un professeur des beaux-arts, ou encore un artiste. Moi, j'ai choisi de rencontrer une aveugle. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas de perception des images. Au contraire, l'imagination les rend plus que jamais présentes. Je suis donc allé au Musée des Beaux-Arts avec Nicole Trudeau, qui se fait décrire avec grande précision des tableaux par Jacqueline Verly, guide au musée. Alors, chers auditeurs, vous qui ne voyez pas non plus ces tableaux, profitez de la visite et imaginez-les. Sentez-les, ça vous permettra peut-être de découvrir ou de redécouvrir le pop art.
Alors, en fonction de ce qu'on voit dans l'exposition, c'est un petit peu difficile de donner une définition du pop art parce que les œuvres sont très, très variées et les techniques également. Mais il y a quand même des communs dénominateurs. Alors, le premier commun dénominateur qui est vrai pour tout le monde, au fond, c'est qu'au milieu des années 50, il y a de jeunes artistes qui rejettent ce qui est le courant dominant de l'art à ce moment-là, c'est-à-dire un art abstrait. Donc un art où il n'y a pas de sujet reconnaissable. Alors, les jeunes artistes donc du milieu des années 50 décident de rejeter tout cela, de reprendre contact avec la réalité, avec le monde qui est le leur, qui les entoure, ce qu'ils voient dans les rues, ce qu'ils voient à la télévision, et de chercher là les sources d'inspiration pour leurs œuvres. Alors, ça veut dire que le pop art, ça va être un art figuratif, que ça va être un art fait de choses tout à fait banales, quotidiennes. Alors, ben, je pense qu'au point de vue introduction, c'est tout ce que j'aurais à dire. On pourrait passer directement aux œuvres.
Est-ce que Madame Trudeau, c'est un courant d'art que vous connaissiez d'avance? Est-ce que vous y intéressiez?
Pas particulièrement. Je connais comme ça un peu de nom, mais je ne peux pas dire que je connais vraiment. Je sais un peu l'esprit, l'esthétique, là, en gros, mais peut-être que intuitivement, c'est peut-être pas la forme d'expression qui m'attirerait d'abord. Mm-hmm. Bon, enfin, ça m'intéresse de connaître aussi. Ça me permettra ou de changer d'idée ou de conforter mon intuition.
Ici, c'est ce que Rauschenberg appelle « combine painting ». Imaginez que Rauschenberg a été ramassé une vieille bâche, parce que Rauschenberg, il utilise des objets de la réalité, mais d'une réalité vraiment salie, usagée, des rebuts. Ouais. Alors imaginez une grande bâche, toute maculée, il y a des taches carrément qui ont l'air d'être des taches de graisse, mais il y a aussi des projections de peinture dessus, toujours pour rappeler l'idée de ce fameux expressionnisme abstrait. Et puis alors, cette bâche est beaucoup plus grande, de sorte que la partie qui n'est pas accrochée pend, un peu comme
à draper. Un peu en dehors du cadre.
Oui, en dehors du cadre. Alors, je reprends les objets accrochés, la planche à repasser, qui est à peu près au tiers...
De la hauteur?
Ça prend presque la hauteur, la planche à repasser. Et c'est accroché à une distance d'à peu près une vingtaine de centimètres du bord gauche, mais votre gauche. Et alors, par-dessus cette planche à repasser, plutôt vers le bas, il y a une vieille plaque en métal qui est une publicité pour Coca-Cola.
Alors la Coca-Cola, c'est vraiment un élément qu'on va retrouver beaucoup dans le Popeye. C'est une plaque qui est complètement gondolée, à moitié rouillée, mais avec le nom. Oui, c'est un vieux machin qu'on a trouvé, je sais pas, dans une décharge. Il y a d'autres éléments de décharge, et puis d'autres que je serais presque incapable de vous les nommer véritablement. Ce sont des débris qui sont là accrochés encore sur cette bâche.
Et ça, c'est sans couleur, ça reste à l'état...
Ben, la bâche est à l'état normal, mais avec des projections de blanc et un petit peu de projections de rouge, comme s'il avait voulu quand même rappeler le geste de peindre, et un geste très spontané. Et alors les objets, ben, il y en a qui sont en métal, il y a des formes arrondies, deux cercles jaunes et rouges, et puis un petit bleu, mais... et puis des formes qui sont presque indescriptibles. Ouais. C'est plutôt pour vous donner une idée du procédé de Rauschenberg. Est-ce que vous pouvez vous figurer un petit peu ?
Oui, ça me donne surtout une impression de grande provocation. Oui. C'est peut-être un reflet d'une partie de notre civilisation qui ne nous plaît pas du tout. Mais ça donne quand même, avec les objets accrochés comme ça, ça donne au tableau un certain relief. Un peu de
volume, parce qu'il y a carrément, c'est pour ça qu'il appelle ça combine painting, parce que c'est présenté accroché au mur comme un tableau, mais il y a les objets réels qui sont en relief.
Oui, c'est ça.
Cette œuvre-là, est-ce que vous la considérez justement comme de l'art ? Est-ce que... tous ces éléments, comment ils vous apparaissent?
Oh, je n'oserais pas me prononcer, je ne suis pas une critique d'art, mais si vous me demandez si cette forme d'expression me plaît, ben, c'est non. Mais je peux comprendre dans le contexte que vous avez énoncé tout à l'heure, ce besoin, on dirait, de faire sauter certaines choses, faire éclater, provoquer. Moi, je fais beaucoup de parallèles quand je vois ça. Les courants esthétiques, ce que je trouve fascinant, c'est le parallèle entre les autres arts, avec la musique, les grands courants architecturaux. C'est dans ce sens-là que je trouve que c'est passionnant de placer ça. Parce qu'au fond, l'esthétique n'est jamais directement... c'est pas la propriété d'un seul art.
Et le pop art, ça vous évoquerait un style de musique particulier?
Ça ne m'évoque pas un style particulier. Ça me fait penser à des courants de musique à peu près au fond de la même époque. La musique concrète, John Cage, Pierre Henry, des craquements de porte, des enregistrements, tu sais, des choses. Une musique d'ailleurs de Pierre Henry qui s'appelle La Porte, et ça se passe tout comme ça. Au fond, l'idée maîtresse, tu sais, c'est de voir que finalement, la société... elle génère la même chose dans toutes les formes d'art. C'est une façon de sentir le monde.
Nous allons progresser maintenant. Richard Hamilton va réaliser un tout petit collage qui a 26 cm à peu près sur 25 et qui est fait à partir d'images découpées dans des magazines. Et alors il y a le titre qui donne, je trouve assez amusant, qu'est-ce qui peut bien rendre nos foyers d'aujourd'hui si différents et si séduisants? Alors ce qu'on voit, c'est à l'intérieur, mais qui n'est...
à Eric Satie.
oui, c'est aussi un peu cool. Alors je vous énumère les éléments. D'abord, un monsieur muscle, dans une pose avantageuse, évidemment à peu près nu, sauf une petite culotte. Sur un canapé à droite, il y a une pin-up avec des seins pailletés. Dans le fond, il y a un téléviseur avec l'image, c'est une jeune femme qui écoute le téléphone. En avant du téléviseur, il y a une grosse boîte de jambon. C'est donc un mélange. Par terre, il y a un enregistreur. Alors au mur, il y a une allusion à des bandes dessinées. À côté de cela, il y a un écusson. Non, c'est vrai, c'est pas un écusson, mais ça a l'air tout plat. C'est en fait un lampadaire et l'abat-jour est décoré avec un écusson de voiture Ford. Puis alors, sur le côté, il y a un escalier, et sur l'escalier, une dame qui utilise un aspirateur. Et un aspirateur qui a un tuyau très long, et on insiste sur la longueur de ce tuyau. Puis alors, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, et là, on voit cinéma, un grand panneau publicitaire pour un film.
Et alors, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'au mur, à côté de tous ces éléments qui sont des éléments de vie tout à fait contemporaine du moment, là, de 52-56, il y a un tableau qui est un portrait, mais vraiment un portrait ancien, un monsieur qui a l'air assez sévère. C'est peut-être l'image là, de la culture traditionnelle. Alors, il y a un détail qui est très important aussi, c'est que le monsieur Muscle tient, ça pourrait paraître comme une raquette de tennis qu'il tient devant lui, mais en réalité, c'est une sucette géante. Et alors, la partie arrondie de la sucette est enveloppée de papier rouge. Et puis c'est placé à un endroit stratégique, un peu comme une feuille de vigne. Et alors, il y a sur l'arrondi de la sucette le mot pop. P-O-P. Et alors là, c'est la première fois que le mot pop apparaît dans l'art. Alors c'est assez drôle.
Il y a du quand même.
Ah, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humour. Et alors c'est considéré justement comme une œuvre très importante parce qu'il y a là tout un vocabulaire qui sera le vocabulaire de l'art.
Est-ce que c'est pas un tableau qui est très confus dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments qui s'organisent dans ce cadre ?
Confus, non. Je pense bien que l'abondance, ça exprime déjà un climat ou l'esprit d'un tableau ou l'idée générale du tableau. Maintenant, pour, disons que moi, je puisse avoir une idée beaucoup plus précise de représentation dans mon esprit, là, il faudrait que je demande tout le détail pour pouvoir, moi, me le représenter d'une certaine façon. Mais je trouve que déjà, avec tous les éléments en fond que vous m'avez donnés, là, je pense que j'ai eu déjà une impression qui me parle.
Quand vous dites que c'est une impression qui vous parle, ça voudrait dire quoi?
C'est-à-dire que ça crée un état d'âme. Comme quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est très humoristique. Hein? Pour moi, là, ce que je ressens avec votre description, pour moi, c'est un peu ça. Ça parle, ça dit quelque chose. C'est pas quelque chose d'indifférent. Ça crée une atmosphère, un peu comme vous êtes dans une pièce, vous rencontrez quelqu'un, vous avez... Il y a quelque chose, une impression qui se crée chez vous. Et je pense que c'est au fond ça que moi je recherche en premier.
Particulière d'un anglais également, Richard Smith. Alors je crois que ce sera peut-être plus simple que je vous dise d'abord de quoi il est parti pour vous décrire l'œuvre. Il est parti d'un emballage de paquets de cigarettes.
Ah bon?
Hein? Alors le paquet de cigarettes, c'est un parallélépipède rectangle. Bon. Alors son œuvre est évidemment assez grande au point de vue dimension. On va aller progressivement. Je vois là-dedans d'abord une partie rectangulaire qui est appliquée contre le mur. Et ce n'est pas encadré. C'est un peu comme un châssis qui ne serait pas encadré. Et on a l'impression qu'il y a alors un paquet ou un parallélépipède rectangle qui sort de ce rectangle vers nous.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est quel matériau, ça?
Alors justement, j'allais arriver à ça. Donc c'est tout couvert de toile et c'est aussi une peinture sur toile. Et la peinture reprend l'idée de l'angle parce que alpine, c'est aussi, ils ont traduit alpestre en français. Et c'est un peu une image très stylisée de montagne enneigée qui dessine aussi un triangle qui se détache sur le fond vert pour la partie qui est le paquet de cigarettes.
Mais
alors c'est un jeu de vert et de blanc.
Oui, mais la peinture, la toile, l'ensemble est une toile?
Oui, il y a toute une construction, évidemment, en trois dimensions.
Oui,
et c'est entièrement
en
recouvert de toile, absolument.
Ah bon. Et une toile et c'est peint par-dessus.
Et c'est peint par-dessus. Mais c'est quelque chose qui est, justement, c'est très œuvre peinte, œuvre d'art. Parce qu'il n'y a pas de lettres, par exemple. Il n'y a pas la marque écrite.
Non, puis c'est pas aussi platement répétitif.
Non, justement, ça fait une œuvre d'art. Et c'est un motif assez simple, assez stylisé. Mais
les formes jouent.
Les formes jouent beaucoup. Ouais. Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important. Mmh. C'est le jeu des formes, à la fois dans le plat et dans le relief. Oui. Il y a vraiment toute une espèce de rythme.
Au lieu
avec
d'illusion du volume, là, c'est le vrai volume.
C'est le vrai volume, c'est ça. Oui.
Est-ce que c'est intéressant.
Oui,
ben, au début, non, mais là, je pense que j'ai compris mieux. Là.
C'est une œuvre qui vous plaît aussi?
Ce qui me plaît toujours, enfin, en art visuel, davantage, c'est ce que je perçois comme un peu plus poétique. Alors, le fait comme il y a un niveau qui joue un petit peu sur deux niveaux, ça, peut-être, part de l'objet concret, mais quand même peut être perçu un peu de façon poétique, jusqu'à un certain point, me rejoint un peu plus que des choses plus quotidiennes, concrètes. Ou... Ma sensibilité artistique en général, en musique par exemple, c'est pareil. C'est plutôt cette forme d'expression-là qui me rejoint davantage que... Bon, par exemple, je vais me sentir plus à l'aise avec la musique de Debussy, tout ça, que, bon, le Bruckner ou les œuvres là, très, très lourdes, insistantes. Puis comme je dis toujours, en fait, tu sais, devant l'art visuel, pour moi, ce qui est important, c'est pas qu'au fond, vous sachiez si je suis capable de redessiner ce que vous venez de me décrire. L'important, c'est est-ce que, avec les informations fournies, l'image que je m'en fais est éloquente pour moi, me met dans une atmosphère, un état d'âme. Puis je me dis, je suis même sûre que pour les gens qui voient, c'est pareil. Mm-hmm. On voit ce qu'on est capable de recevoir, finalement. Hein?
Oui. Une salle qui est consacrée en grande partie à Andy Warhol, qui est peut-être le plus spectaculaire des artistes pop, qui a vraiment aussi utilisé beaucoup de moyens publicitaires. Je vais vous dire les sujets des tableaux. Un, c'est des Liz Taylor en Cléopâtre. Un autre, c'est Elvis Presley. À côté, c'est, je ne sais pas combien il y en a, parce qu'il y en a encore beaucoup plus, c'est des bouteilles de coke. Un autre, c'est 25 images de Marilyn Monroe. Et c'est toujours exactement la même image de base, qui a l'air d'un masque. Ce n'est pas l'équivalent d'une belle photo de Marilyn. Mais chaque image est quand même un tout petit peu différente de l'autre, parce qu'il y a des couleurs qui sont un petit peu différentes. Par exemple, certaines sont comme un maquillage, mais un maquillage agressif et qui est un petit peu débordé. Et c'est donc la répétition de la même image, aspect mécanique et aussi dépourvu de toute sensibilité.
Moi, l'impression que ça me laisse, c'est que c'est vraiment un travail technique. Hein?
Mm-hmm.
Mais, tu sais, ça banalise, au fond, terriblement une image. Le coke joue le même rôle que le visage de Marilyn, finalement. C'est, le sujet, il est comme, il a comme pas d'importance. Pas d'importance. Il y a une importance culturelle, historique,
C'est de la surconsommation d'images, ça.
Mm-hmm. Hein? Mais c'est,
on dirait que ça nous renvoie à notre...
C'est
à nous-mêmes, hein, en fait. Oui. C'est un art vraiment très, très de son temps, hein? Bien collé à son temps. Mm-hmm.
Hey, Mr. Rain, ain't you bound me down? Hey, Mr. Rain, ain't you bound me down? I'm gonna bid you so hard, stay up in the sky. Hey, Mr. Rain, ain't you bound me down?
D'abord, je vais vous demander ce que vous en avez retenu un peu de cette exposition, ce que vous attendiez à ça.
J'ai trouvé ça peut-être plus intéressant que peut-être l'espèce de vague impression que j'avais au départ. C'est pas nécessairement quelque chose qui colle à ma peau bien, là. Mais par contre, je trouve ça enrichissant sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan des arts comparés. Je trouve ça assez fascinant.
Mais je crois que vous n'êtes pas aveugle de naissance, vous avez déjà vu.
J'ai vu, oui. Le plus que j'ai vu, j'étais adolescente. Je voyais, par exemple, les couleurs, les formes, mais pas trop en détail. C'est sûr que ça laisse... on a des images, hein, des images qu'il faut... au fond, j'ai besoin de toujours appréhender. C'est des images... Les images, c'est un peu comme n'importe quoi, hein. Quand on n'utilise pas une connaissance ou une ressource, on oublie. Je trouve que quand on ne voit plus les images, si on n'y pense jamais, ou si on ne se met pas en situation de les recréer dans son esprit, on les perd aussi. Je crois qu'on peut les oublier. Bon, quand je voyais un peu, mais pas très bien, j'étais toujours à l'affût de détails. Je posais toujours des questions pour savoir d'avoir le plus de données possibles. Bon, puis à mesure que ma vue diminuait, même depuis qu'elle je ne vois plus, j'ai toujours ce grand besoin d'images dans mon esprit. C'est comme une sorte de contact avec l'univers où... Je pense qu'il y a comme une forme d'espace. J'ai besoin d'espace et ne pas savoir ce qui m'environne m'insécurise énormément. Et d'ailleurs, moi, je dis à la blague quand on me parle souvent de « oui, mais il y a les visuels et les auditifs ». Mais quand je réfléchis sur ma façon de me sentir dans le monde, je me dis « au fond, je suis une visuelle ». C'est-à-dire, j'ai besoin de me représenter les choses. Alors, c'est ce qui me fait dire que... probablement, d'instinct ou de façon d'appréhender les choses, j'ai besoin d'images. Peu importe quelle soit la réalité, de toute façon, qui peut vérifier, hein, entre l'image que je me fais et la réalité?
Quand on parle d'art, bien sûr, on parle d'esthétisme et de beau. Pour vous, c'est quoi le beau?
Je pense que ça passe essentiellement par le niveau de la sensibilité. Et le côté... si je perçois quelque chose comme poétique... Je vais d'instinct, peut-être moi, trouver ça beau. Je ne dis pas que esthétiquement, c'est beau ou pas beau. Mais je dis, moi, ça va me rejoindre.
Et par exemple, quand l'exposition qu'on vient de faire, justement, il y a des éléments qui vous rejoignent plus. Ça tiendrait à quoi?
Au fait que je suis, en général, dans l'art, plus touchée par des choses où j'ai un espace où je peux deviner, où je peux... flairer, où je peux pressentir quelque chose, je suis plus sensible à ça que les choses où tout a été dit, à mon avis. Mon besoin de l'art visuel, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est instinctif. Hein? C'est un besoin d'appréhender le monde, en fait. Et se retrouver, évidemment, en face d'une œuvre dont personne ne peut vous parler, ça, c'est la pire frustration que vous pouvez avoir. J'ai déjà vécu ça, et j'ai trouvé ça très douloureux. J'avais été en Allemagne de l'Est, dans un musée. On était dans une salle où il y avait à peu près une vingtaine de tableaux de Rembrandt. Et la personne avec qui j'étais, à ce moment-là, elle s'est trouvée fatiguée et elle n'avait pas envie de décrire. Mais j'en garde un souvenir très frustré.
C'est sûr, quand on questionne plus à fond, je peux me dire, mon Dieu, je suis peut-être ridicule. Mais après tout, je me dis, pourquoi je serais ridicule? C'est ce que j'ai besoin, moi, de ça. J'ai envie de ça. Hein. Ça m'apporte quelque chose d'énorme dans ma vie. Ça habite mon existence. Hein. Il faut nourrir son imaginaire, tout le monde, même ceux qui voient. Hein. Mais je me dis, ceux qui ne voient pas aussi ont besoin de nourrir un imaginaire parce qu'on vit peut-être encore plus sur notre imaginaire.
Je voudrais tout d'abord remercier Nicole Trudeau d'avoir bien voulu participer à ce reportage. Merci également au Musée des Beaux-Arts de Montréal et plus particulièrement à Jacqueline Verly, guide au musée, et Ginette Lebel du service éducation.